La Voix des Arts, présentée par Christine Darboux.
Bonjour à tous. Eh bien, j'espère que vous êtes heureux de me retrouver, surtout de m'entendre évoquer les débuts des femmes créatrices au cinéma, non seulement des actrices, mais aussi des productrices, réalisatrices, scénaristes, monteuses, techniciennes, éclairagistes, bref, tout un petit monde féminin qui s'active dans les studios, dans l'ombre des coulisses, et qui, grâce à leur travail de fourmi, ont permis au cinéma d'exister et de se développer. Et oui, mais c'est une réalité, hein, ce début de XXe siècle. Reste à savoir comment ces dames vont évoluer au cours du temps. Alors, la dernière émission, je vous ai présenté américaine et anglaise, encore des pionnières, puisque nous étions vraiment au tout début du cinéma, qui à cette époque était muet. Bien qu'avec Mae West, nous entamions un autre cycle avec le parlant. Outre Mae West, j'avais mentionné Marguerite Berch lorsque je parlais de la réalisatrice Paula Blackton, en soulignant le fait que des femmes avaient participé au développement cinématographique en travaillant, pour la plupart, pour la Vitagraph, un studio de production américain co-dirigé par Stuart Blackton, le mari de Paula et père de Marianne Constance Blackton, elle-même scénariste. Alors Marguerite Berch est aussi une Américaine. Elle est née en 1889 et elle deviendra rédactrice en chef au département des scénarios de la Vitagraph. Or sa mission sera surtout de contrôler, de vérifier, de sélectionner sur les centaines de scénarios qui parviennent chaque semaine au studio, ceux qui feront l'objet d'un tournage. Et elle-même d'ailleurs écrit ses propres scénarios. Alors c'est quelqu'un qui est décrit comme une femme de tête, une intellectuelle. Elle écrira d'ailleurs un livre publié en 1917 intitulé « Comment écrire pour des images en mouvement » qui est un manuel d'instruction et d'information. Alors apparemment il s'agirait d'une analyse avec des déductions, des conseils pour optimiser le rendu cinématographique. Et c'est en 1916 qu'elle prendra la direction du studio et combinera d'ailleurs plusieurs activités de la réalisatrice à la scénariste ou l'adaptatrice de scénario. Alors son approche du cinéma serait plutôt personnelle et assez novateur. J'ai lu que sa technique consistait à se focaliser sur un personnage central dans un contexte qu'elle choisissait plutôt mélodramatique, car elle ne redoutait pas de côtoyer le tragique. Enfin, quoi qu'il en soit, ses films reçoivent plutôt des critiques élogieuses, notamment l'un d'eux intitulé « La gloire de Yolande » de 1917, qui retrace l'histoire d'une paysanne russe qui, de simple ballerine, devient une grande danseuse étoile. Alors à noter que cette histoire est véritablement une histoire de femme, car outre le sujet dont l'interprétation principale ne peut être que féminine, en l'occurrence tenue par Anita Stewart, l'histoire fut écrite par une autre femme nommée Mabel Ex-Justice. C'est donc un film où, de A à Z, les femmes sont présentes et s'investissent à tous les niveaux cinématographiques. Alors un autre film de Marguerite Berch, tourné en 1916, provoquera même une réaction du journal Le New York Times. Et ce film, intitulé The Devil's Price, le prix du diable en français, où sont abordées la grossesse, l'abandon et le meurtre, serait traité sous un angle davantage psychologique, voire philosophique, d'après ce que j'ai lu, bon, car je n'ai pas pu m'en rendre compte sur pièce. Et donc, d'après ce que j'ai lu, sa façon de traiter le sujet est apparue comme insolite venant d'une femme. Enfin, quoi qu'il en soit, elle ne laisse pas indifférent et les journaux parlent d'elle. Ceci dit, elle créera surtout la surprise, non pas à cause de ses réalisations, mais sur le fait de quitter brusquement la Vitagraphe en 1918, au sommet de sa carrière. Et par la suite, il semblerait que le silence se fasse autour d'elle, créant un mystère sur les causes de son départ du milieu cinématographique. Alors nous allons écouter un peu de musique hein, pour rester dans cette ambiance années 20 si particulière, et je vous propose d'écouter un genre de swing entraînant, de quoi booster nos énergies avec une musique délicieusement rétro, comme dirait quelqu'un que je connais. Il s'agit de Body Swing de Parov Stelar, qui, même s'il n'est pas de cette époque, a bien saisi l'esprit que nous nous en faisons. Cette entraînante musique hein, qui vous a certainement ragaillardi comme moi-même d'ailleurs, revenons à notre créatrice. Alors j'ai mentionné le nom de Mabel Ex-Justice, l'écrivaine scénariste du film La gloire de Yolande. Cette personne a retenu mon attention car au cours de mes recherches, eh bien je suis tombée, ben non sans mal d'ailleurs, sur son cursus d'écrivaine de nouvelles et de scénarios qui est conséquent et intéressant. Pour les raisons que je vais vous expliquer ici. Alors, Mabel Ex-Justice est née aux États-Unis en 1871. Elle est décédée relativement jeune, hein, en 1926, à l'âge de 55 ans. Et entre-temps, elle a su faire parler d'elle, et notamment pour la défense des droits de condamnés à des peines de prison. et surtout à des peines capitales pour des crimes qu'il n'avait pas commis. Alors il semblerait qu'elle ait voulu souligner certains dysfonctionnements de la justice de son pays et que pour ce faire, elle a utilisé sa plume et l'écran. Alors il faut dire qu'elle était la fille d'un éminent juriste et donc elle a dû être confrontée, même indirectement, à des cas qui par la suite se sont avérés dramatiques dans le sens justement où des personnes injustement punies ont été condamnées à mort et sont passées par la peine capitale jusqu'au moment où la justice s'est rendue compte de son erreur, mais il était trop tard. Enfin, quoi qu'il en soit, Mebelek Justice se montre sous les traits d'une farouche opposante à la peine de mort. Et je trouve que le destin fait parfois de ces petits pieds de nez cocasses, car se nommer justice quand on défend la justice, eh bien, ce n'est quand même pas banal. Enfin, quoi qu'il en soit, elle écrit sur le sujet, notamment un scénario pour un film réalisé en 1917 par Colin Campbell, intitulé « Who Shall Take My Life ?»« Qui prendra ma femme ?» pour la traduction française, où il est question d'un condamné injustement puni pour le meurtre d'une femme qui sera retrouvée vivante par la suite. Alors ce film crée la polémique, ce que désirait certainement Mebel. La presse s'en empare, le pouvoir en place lui-même est interpellé. Bref, il semblerait que cette dame fasse mouche et que grâce à elle, et entre autres, grâce à l'équipe cinématographique, des prises de conscience se fassent. Alors, je n'en sais pas plus, car mes outils ne m'ont pas permis d'investiguer davantage. En tout cas, je note que là encore, une femme se sert du cinéma comme d'un outil pratique, utile, pour alerter l'opinion, ouvrir les consciences et faire évoluer, tant que faire se peut, la société. En outre, elle transmettait sa vision personnelle pour la composition des scénarios. Alors, si j'ai bien compris, elle disait qu'un auteur doit se focaliser à chaque instant sur l'idée centrale et directrice du drame et faire en sorte que chaque scène capte le public un peu plus, scène après scène, grâce à une intensification progressive de l'intrigue. Or, son travail dans la presse également laisse des traces personnelles, parce qu'à part ses talents d'écrivaine et ses prises de position, elle se serait également fait remarquer en trouvant des solutions pratiques. Et c'est elle qui aurait découvert un procédé novateur pour renouveler les rubans de machines à écrire. Alors, il semblerait aussi qu'elle ait beaucoup écrit pour le cinéma, des courts-métrages surtout, entre 1913 et 1916, notamment en collaboration avec une réalisatrice également écrivaine nommée Kathleen Williams, américaine, née en 1879. Cette personne, Kathleen Williams, pour dire quelques mots sur elle, avait toute jeune désiré devenir actrice et a commencé par le théâtre. Et comme elle possédait de belles dispositions, à la fois pour la comédie mais aussi pour le chant, elle aurait été soutenue par un riche industriel et homme politique qui l'avait remarqué, ce qui lui a permis de poursuivre des études d'art dramatique. Bon, car il faut dire qu'elle était pauvre, orpheline de père, et donc ce monsieur, eh bien, il lui a mis le pied à l'étrier. En tout cas, sa filmographie en tant qu'actrice est assez impressionnante, entre 1910 et 1930, mais elle possède aussi à son actif quelques films en tant que scénariste et également comme réalisatrice. Alors, ce sont toujours, évidemment, vu l'époque, des courts-métrages muets. Alors, je ne sais pas, évidemment, ce que vous pensez, mais pour ma part, depuis que je fais cette émission sur le cinéma au féminin, eh bien, je suis extrêmement surprise de voir combien ces femmes ont participé à lancer le 7e art dans le monde. Et si je n'avais fait toutes ces recherches, bon, même si j'ai toujours compris l'influence des femmes dans différents secteurs, eh bien, je n'aurais pas pensé à un aussi fort pourcentage au sein du 7e art. Et je suis sûre que je vais en oublier. Mais néanmoins, si je peux participer à quelque chose d'utile, eh bien, c'est de les mettre en lumière pour que nous retenions leur participation non négligeable, nous dirons active, voire indispensable, au sein du 7e art. Or, si je peux encore m'exprimer ainsi, elles ont vraiment accouché du bébé, qui ensuite n'a fait que croître et embellir, avec l'apport bien évidemment essentiel des hommes. En tout cas, nous leur devons à tous, femmes et hommes, le cinéma que nous connaissons maintenant. Allez, encore un petit peu de musique, intitulée « Girls » pour les femmes des années 20, de Cliff Edwards. Alors c'est en anglais et je laisse la traduction à qui le peut.
Oh, the girl of my dreams is the sweetest girl of all the girls I know. Each sweet co-ed like a rainbow trail fades in the afterglow. The blue of her eyes and the gold of her hair are a blend of the western skies, and the moonlight beams on the girl of my dreams. She's the sweetheart of Sigma Chi. Oh, the blue of her eyes and the gold of her hair are a blend of the western skies, and the moonlight beams on the girl of my dreams. She's the sweetheart of Sigma Chi.
À propos de femmes, hein, car l'émission n'est pas terminée, d'ailleurs en voici une autre nommée Clara Béranger, une américaine qui est née en 1886. Elle était écrivaine et scénariste et, paraît-il, aurait laissé une production impressionnante en adaptant ses propres écrits au cinéma, mais aussi ceux d'autres écrivains, comme des romans, des pièces de théâtre. Et elle aurait ainsi participé à presque une centaine de films, dont 4 parlants. Et elle utilisera d'autres prénoms, féminins et masculins, Clara ou Charles, hein, tout en gardant son patronyme. Ce qui ne l'empêchera pas de devenir l'épouse d'un réalisateur nommé William DeMille, le frère du producteur et réalisateur plus connu, nommé Cécile B. DeMille. Alors avant de devenir Madame DeMille, Clara Béranger aura contracté un premier mariage, comme William DeMille d'ailleurs, mais c'est cette seconde union qui apparemment aurait été la meilleure, car fructueuse, non seulement pour le cinéma, mais aussi dans la sphère privée, car ils constitueront ensemble un couple solide jusqu'au bout de leur existence. Alors voyons un peu son cursus. Nous savons qu'elle a débuté comme journaliste, écrira des articles dans des journaux et des magazines, et finalement, en envoyant des scénarios de films, elle finira par être intégrée au sein de l'industrie naissante du cinéma, comme chez Edison, Vitagraph, hein, que vous connaissez maintenant, et Kalem. Et plus tard, elle fera partie de l'équipe de rédaction de Fox Film Corporation et de Pathé. Alors c'est une femme aussi qui endossera plusieurs fonctions puisqu'elle sera adaptatrice de films, scénariste, monteuse et aussi actrice. Et dans ce milieu, elle sera surtout connue sous le nom de Madame Albert Berwanger, son premier mari, puis ensuite de Madame William DeMille. Alors adaptatrice de ses histoires à l'écran, mais aussi de romans, pièces de théâtre, scénarios d'autres qu'elle, il paraît qu'elle excellait dans les drames. Alors il faudrait pour cela voir les films dont elle a écrit les scénarios, comme par exemple Anna Karénine, tirée du roman de l'écrivain russe Léon Tolstoï et tournée en 1915, et réalisée par Gordon Edwards, ou bien Dr. Jekyll et Mr. Hyde de 1920, écrit par Robert Louis Stevenson et réalisé par John Robertson. Alors, ce sont évidemment des films muets, et il y en a bien d'autres. Alors, après le cinéma, et donc une belle carrière, elle deviendra enseignante sur l'écriture de scénarios dans une université de Caroline du Sud, et décédera en 1955, un an après son mari, William DeMille. Alors, si vous avez bien entendu, hein, j'ai évoqué le fait que se constituaient à ces époques des familles de cinéastes. Bon, d'abord des couples, puis les enfants prenaient une relève. Alors, nous connaissons tous plus ou moins Cécile B. DeMille, dont le nom apparaît dans les génériques et qui est à l'origine d'une belle filmographie. Nous avons fait la connaissance par l'intermédiaire de Clara Béranger de son frère William DeMille. Mais figurez-vous que les DeMille avaient des parents. Hein. Bon, jusque-là, rien d'étonnant, évidemment. Sauf que ceci déjà faisait partie du milieu de la comédie. Et en effet, le père Henri DeMille a toujours voulu être acteur. Et lorsqu'il rencontre sa future épouse, eh bien, il l'embarque dans ses projets, si bien que Béatrice, une Anglaise née Mathilda Béatrice Samuel, en devenant Madame DeMille, devient également comédienne. Alors le mari écrit des pièces, il s'associe avec un impresario de théâtre, le succès est au rendez-vous, l'argent afflue, Madame DeMille fait des bébés et catastrophe, le mari décède. Il décède brusquement, laissant sa veuve, que l'on suppose éplorée, avec la charge de ses enfants. Alors qu'à cela ne tienne, Madame DeMille transforme alors sa maison en école pour filles, elle rebondit, elle envoie ses fils dans de bonnes écoles et dans la foulée devient agent, d'abord pour proposer diffuser les pièces de théâtre de son mari, puis ensuite pour d'autres auteurs. Or, coup de théâtre encore dans la réalité de Béatrice, qui est éclaboussée, ben, sans en être responsable, ni elle ni son école, qui commençait quand même déjà un peu à battre de l'aile, par un scandale qui éclate avec une ancienne élève, ce qui fait que certains parents, plus chatouilleux ou soupçonneux, retirent leur confiance de l'école. Alors, au bord de la faillite, Béatrice se raccroche à ce qu'elle peut. Elle vend la maison et s'investit davantage dans son rôle d'agent jusqu'à s'occuper des productions de ses propres fils. Elle les forme, les aide à se propulser et commence, elle aussi, de son côté, à écrire ses propres pièces, dont la première s'intitule « The Greatest Thing in the World », qui est jouée sur les scènes de Broadway et à Washington. Alors, elle fait son chemin, ses fils aussi. Cécile fait sa place à la fameuse Paramount Pictures. Quant à Béatrice, ben, elle continue d'écrire des scénarios pour ses fils ou d'autres, hein, comme pour la Lasky Company. Et elle aurait laissé une empreinte assez forte, en tout cas sur l'esprit de l'un de ses fils, Cécile B. DeMille, puisque celui-ci fait son portrait dans son autobiographie. Alors, sans l'avoir lu, à part quelques passages recueillis ça et là, hein, comme je pouvais, il semblerait que cette dame ait été une originale quelque peu excentrique. Alors, des femmes scénaristes, des écrivaines qui mettent leur plume au service de l'écran, c'est monnaie courante ce début du XXe siècle. Je citerai encore une américaine, même si elle est née en Espagne, ce qu'elle devait au métier itinérant du père, employé au chemin de fer, quoi qu'il ait dit que celui-ci était franco-espagnol et sa mère britannique. Alors, elle se nommait Ouida Berger, elle est née en 1886 et apparaît également sous le nom de Nie Branch, quoiqu'elle ait changé plusieurs fois de nom, si bien que j'ai eu un peu de mal à la suivre. En tout cas, elle était actrice, dramaturge et scénariste. Alors, elle aussi aurait débuté une carrière de comédienne au théâtre, hein, comme la plupart, et a abandonné le théâtre pour l'écriture. Et elle aurait également dispensé ses services pour le cinéma étranger, comme la France, l'Angleterre ou l'Italie. Alors, de 1915 à 1935, hein, ça aurait été la période la plus fertile pour l'écriture de scénarios à destination de la Paramount, de Pathé ou de la Metro Goldwyn-Mayer, entre autres. Alors, elle s'est mariée 3 fois, dont 2 divorces. Bon, à ce sujet, il faut signaler qu'elle avait convolé avec un réalisateur nommé George Fitzmaurice. Aussi, construira-t-elle une bonne partie de sa carrière en binôme avec son réalisateur de mari. Et à la quarantaine, elle divorcera pour se marier avec un acteur nommé Basil Rathbone. Et là, à ce qu'il paraît, elle aurait délaissé quelque peu ses activités cinématographiques afin d'aider son mari à gérer sa carrière. Bon, à noter cependant qu'elle aurait écrit pour lui une pièce de théâtre intitulée Sherlock Holmes, car entre autres activités d'écriture, elle créait aussi des pièces de théâtre. Or, de ces femmes qui collaborent avec leur mari à la réalisation de films, il y en a d'autres. C'était souvent, comme je l'avais mentionné, des affaires de famille où les femmes touchaient un peu à tout. De devant les caméras, elles passaient derrière, comme Alice Terry, qui débute comme actrice, évolue sous les directives de son mari, bon, qui joue plus ou moins auprès d'elle les Pygmalions. Puis la situation va se transformer jusqu'à s'inverser à une certaine époque, car Alice collaborera de plus en plus à la réalisation, apprendra les ficelles du métier jusqu'à prendre les commandes. Bon, nous dirons que c'est presque par force, car dans ce cas précis, son devoir lui aurait commandé de terminer ce que son mari ne pouvait plus finir pour raison de santé. Enfin, de toutes ces femmes au temps du cinéma muet qui passent devant ou derrière la caméra, hein, selon les besoins du moment, combien y en a-t-il encore que je n'ai pas cité ? Tant il y a de ces femmes qui fonctionnent en collaboration maritale ou familiale, ou même en solo. Bon, chacune d'elles, en tout cas, saura profiter du cinéma naissant pour apporter son expression personnelle, si bien que nous pouvons appréhender, et vous l'entendez, les personnalités, les goûts et les idées de chacune. Alors, j'ai l'exemple encore de Bertha Muzzi Bauer, une Américaine née en 1871, qui était écrivaine, romancière et cinéaste. Alors, celle-ci a écrit 68 romans, surtout sous un pseudonyme, afin de dissimuler son sexe, comme ce fut le cas bien souvent. Ces romans ayant suscité l'intérêt de réalisateurs de cinéma, eh bien, ils les ont adaptés à l'écran, et l'un d'eux, particulièrement apprécié, aussi bien des lecteurs que des réalisateurs, s'intitule « Chip of the Flying U ». Et il est bien révélateur de la personnalité et des goûts de l'auteur, qui était particulièrement attiré par les histoires de cow-boys, bon, ce que nous connaissons sous l'appellation de western. Alors, dans un autre registre, vous rencontrez aussi une femme riche qui a abordé le cinéma, nous dirons, avec la désinvolture tranquille de celle qui s'adonne à un passe-temps agréable. Elle s'adressait surtout aux enfants. Elle faisait du cinéma pour et avec les enfants, en écrivant, produisant et réalisant ses propres films. Celle-ci se nommait Madeleine Brandeis. Elle était née en 1897. Avec une existence dorée, paisible, mais courte, puisqu'elle est décédée à 39 ans dans un accident de voiture. Et bien, c'est sous ces dernières paroles que nous nous quittons, puisque l'émission est terminée. Nous ferons la connaissance d'autres personnalités féminines du monde du cinéma la prochaine fois. En attendant, je vous remercie de votre écoute de La Voix des Arts.
La Voix des Arts, présentée par Christine Darboux.